With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à vous. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voudrais remercier les éditions du Seuil d'avoir sponsorisé cet épisode. La maison d'édition a sorti dernièrement le dernier livre d'Ivan Jablonka, intitulé « Un garçon comme vous et moi ». Il y retrace sa propre histoire de petit mec né à la fin des années 70 et son chemin à travers ce qu'il appelle la garçonnitude, son rapport à son père, sa mère, ses potes et les filles. C'est passionnant et vraiment éclairant sur l'éveil à la masculinité. Si vous souhaitez vous le procurer, je vous mets un lien dans les notes de cet épisode. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec, le podcast où je donne chaque 1er et 15 de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi pour toi être un mec ? Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview, j'adore vraiment cet exercice, mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch, tous les lundis, les mercredis et les vendredis, sur des sujets divers et variés, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire si vous préférez l'écrit. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je vous le disais donc en intro, cette semaine je reçois Ivan Jablonka, qui a beaucoup travaillé sur la masculinité ces dernières années. Il est notamment l'auteur, toujours aux éditions du Seuil, d'un autre livre sur la masculinité intitulé « Des hommes justes », où il dissèque l'histoire du patriarcat. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon sur le sujet des mecs. Dans cet épisode, après avoir répondu non sans un poil de perplexité à « qu'est-ce que c'est pour toi être un mec ?», on discute de la façon dont il a évolué en tant que petit gars, on parle aussi de la masculinité d'Actarus, le héros d'Albator, et comment Ivan aimait aussi beaucoup l'univers de Candy, qui était un dessin animé pourtant réservé aux filles. On discute aussi de son rapport à son père, dont les parents sont morts à Auschwitz, et à quel point la vulnérabilité de son daron l'a construit en tant que petit gars, et même encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Enfin, vous verrez, cet épisode est dense. On évoque de nombreux sujets, tous plus passionnants les uns que les autres. Merci à Ivan de s'être livré, m'a-t-il confié après la discussion, dans son, je le cite, « interview la plus wild ». Faut dire qu'il est non seulement bien sûr auteur, mais aussi historien et professeur à l'université, et je crois l'avoir amené sur des sujets dont il n'avait jamais parlé jusque-là dans des interviews, et pourtant, il en a fait beaucoup. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Ivan, et je vous souhaite une bonne écoute. On est avec Ivan Jablonka, salut.
Salut.
Comment ça va?
Eh ben ça va, on est chez toi, il fait très beau, il y a plein de lumière, c'est super sympa et je suis bien content d'être là.
Bah c'est cool, j'ai l'impression de t'avoir perturbé parce que je t'ai un peu briefé sur le podcast et je t'ai dit la première question que je pose à tous mes invités c'est quoi pour toi être un mec ? Et là je t'ai vu partir le regard dans le vide.
Non, pas le regard dans le vide, mais c'est vrai que cette question banale, hein, toute bête, est en fait redoutable. C'est quoi être un mec ? Moi d'abord je dirais que ça renvoie à des choses du corps, ça renvoie à des choses un peu biologiques. À partir de 14 ans je me suis rasé la moustache et par exemple quand je me rase la barbe ou la moustache, je pense à mon père et je me dis tiens voilà, ça c'est un truc de mec. Bon, on a un zizi, ça s'appelle de plein de manières, que je vais pas dire parce que tout le monde sait, et ça, je dis pas que j'en suis fier, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de l'expérience, et c'est un sexe qui sert à divers usages, et ça, je crois que c'est aussi une expérience de mec. Il y a les manières dont on s'en sert. Par exemple, il paraît qu'il y a plein de mecs qui aiment bien faire des concours où c'est celui qui pisse le plus loin. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mmh. Mais je sais que ça existe. Alors ça, voilà. Là, j'ai dit les choses un petit peu biologiques. Et puis, je pense aussi à des choses qui renvoient à l'apprentissage, au code. Par exemple, mon père, il me disait beaucoup... tiens bon, t'es pas en sucre, t'as pas mal. Par exemple, quand j'avais
pleure
mal,
pas.
Pleure pas. Ou quand je disais, je sais pas, si je me faisais mal, il me disait, non, t'as pas mal, arrête ton cinéma. Alors ça, je dis pas que c'est ça être un mec, parce que c'est même plutôt un apprentissage que je trouve un peu...
Par la négative, un peu. Hein.
Ouais, par la négative, et puis par la résistance, par la dureté. Mais je sais que c'est une expérience très masculine que d'être comme ça, dans une forme de dureté, de refus de l'aide, de croire qu'on va pouvoir s'en tirer tout seul. Voilà.
T'as appris, toi, ou alors la question est plutôt comment t'as appris, toi, à demander de l'aide ? Est-ce que tu t'as appris et comment t'as fait ?
Ben, en fait, quand tu m'as fait réfléchir sur cette question « qu'est-ce qu'un mec ?», moi, j'aurais envie de te dire « je suis un mec, mais j'ai aussi un côté fille ». Alors ça, je ne sais pas si beaucoup t'ont répondu ça, mais...
Si.
Ouais, j'ai aussi un côté fille. J'ai un côté fille. Ton podcast, c'est histoire de mec et c'est pas histoire de nana, mais j'ai quand même, j'ai toute une culture féminine, plus ou moins stéréotypée, mais par exemple, je me sens hypersensible, assez vulnérable, plein de doutes. Alors ça veut pas dire que c'est propre aux filles, bien sûr, mais ça veut dire que du point de vue des stéréotypes, ça renvoie au féminin, alors que le masculin est capable d'être assuré, performatif, de trancher. Moi, je ne suis pas capable de tout ça. Je n'ai pas des avis très tranchés. Souvent, je suis d'accord avec le dernier qui a parlé. Enfin, ça, ce n'est pas des trucs de mec, justement. Et donc, voilà, j'assume un petit peu cette ambiguïté. Mais je ne sais plus quelle était ta question. Maintenant, j'ai oublié.
Comment t'as appris à... Est-ce que tu as appris à demander de l'aide et comment tu as appris à demander de l'aide ?
Ouais, je pense que j'ai senti... très rapidement des failles, des formes de vulnérabilité. Et ça, c'est en lien avec mon daron, pour rendre hommage à une autre chose de ce que tu fais, mon père, parce que mon père est un orphelin de la Shoah. Et très tôt, j'ai compris qu'il était aussi une figure de vulnérabilité masculine, de fragilité. Et donc, j'ai compris que les mecs, ça souffrait, c'était fragile, ça pouvait avoir des problèmes. Une autre chose est de savoir quand demander de l'aide. Ça, c'est différent. Parce qu'il y a plein de mecs qui savent qu'ils sont fragiles, qu'ils ont des failles, qu'ils ont un pet au casque, qu'il leur manque une case. On le sait tous. En revanche, l'admettre, le dire, même à son meilleur pote ou à sa nana, accepter qu'on ne se suffit pas à soi-même, accepter qu'on souffre et que, contrairement à ce que disait mon père, ce n'est pas du cinéma. On n'est vraiment pas bien. Ça, c'est autre chose. Et ça, je dirais que c'est arrivé très tard pour moi, à l'occasion d'une crise avec mon père, justement. Je suis allé voir un psy. J'avais 35 ans, donc c'était il y a 12 ans à peu près. Et ce qui est intéressant, c'était à l'occasion d'une crise avec mon père, justement, parce qu'on s'était engueulé violemment. Et puis bon, c'était des trucs de l'enfance qui remontaient. Et voilà, là, aller voir un psy, c'était une manière... de sortir du stéréotype mec qui consiste à croire qu'on est autosuffisant et qu'on s'en sort tout seul. Quoi.
35 ans, c'est tard.
C'est très tard, bien sûr. C'est tard. Il y en a qui commencent beaucoup plus tôt. Mais moi, c'est aussi lié au fait que j'ai eu une enfance plutôt facile. Enfin, quand je compare, par exemple, à des gars qui ont galéré, qui viennent de milieux vraiment populaires, ou dans un autre domaine, aux jeunes gays... Qui vivent des trucs durs, notamment quand ils ne sont pas à Paris. Enfin, bon, moi, de ce point de vue-là, j'ai eu une enfance plutôt choyée. Enfin, je ne dirais pas facile, parce que j'ai eu des problèmes comme tout le monde, mais ça a été... J'ai eu une enfance assez rectiligne du point de vue, du point de vue scolaire et du point de vue social, parce que je viens d'un milieu plutôt favorisé. Donc oui, ça a mis du temps aussi à que j'ai besoin de m'adresser à des gens ou de... Mais par exemple, pour répondre autrement à ta question, je me souviens d'avoir beaucoup fait des confidences, fait des aveux. Ça, c'est très fille, justement. En tout cas, c'était qu'avec des copines que je faisais ça. C'est-à-dire qu'on se faisait des confidences, on se racontait des trucs, je posais des questions. Et quand tu poses des questions à des mecs, ils te disent très rapidement « Oh là là, t'es bien curieux, arrête de me prendre la tête. » Et c'est une culture assez fine que de se raconter un peu sa vie. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait et très tôt. Et c'est encore un truc que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup écouter et j'aime pas trop parler. C'est pour ça que si vraiment j'étais si vraiment on faisait exactement ce dont j'ai envie, c'est moi qui t'interrogerais, tu vois.
Oui, t'es arrivé dans l'appart et t'as commencé à poser plein de questions.
Voilà,
t'es très curieux.
Voilà.
Au beau sens du terme.
Tu vois, tu dis curieux. Non, c'est.
Ouais. Oui, curieux. Pour moi, c'est amélioratif, hein, curieux.
Je sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que j'arrive dans un appart. Un appart, ça dit tellement de choses sur celui, celle qui y habite. J'ai tout de suite envie de dire voilà, raconte. Ah ben oui, ça tient, cette photo, c'est qui? Raconte. Et c'est intéressant, tu vois, on a parlé un petit peu de tes filles, de ton père, voilà, toi aussi, tu vois, je raconte ta vie, mais après tout, c'est ça aussi, des histoires de mecs. On a un père, on a des filles, moi, il se trouve que j'ai 3 filles, et ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière.
Je suis d'accord. J'aimerais parler un peu de ta production littéraire, parce que tu as commencé à travailler très très tôt sur la masculinité, en tout cas par rapport autant aujourd'hui qui va très vite, notamment par rapport aux questions de masculinité, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à l'époque, de commencer à aborder ce sujet en particulier?
Alors d'abord,
excuse-moi, je te coupe, mais t'es historien, t'es professeur, t'es pas juste auteur, hein, t'as plein d'autres casquettes, entre guillemets.
Oui, je suis historien, donc j'ai une vision à la fois personnelle et individuelle du masculin, parce que je suis un mec, mais aussi j'ai travaillé depuis des années sur le masculin, la paternité à travers les siècles, donc j'ai un recul que je n'ai pas en tant qu'individu.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur le masculin? Parce qu'il y a plein d'autres sujets potentiels, quoi. Tu vois.
Alors j'y suis venu de plusieurs manières. D'abord j'y suis venu par mon père, hein. Je disais que mon père est une figure de vulnérabilité masculine, une victime aussi à certains égards, victime de l'histoire. Et puis récemment, mon père m'a dit, on discutait, et puis il m'a dit, tu sais, moi, j'ai été un père à problème. J'ai trouvé que c'était une expression assez forte. Il m'a dit, j'ai été un père à problème. Ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé quel type de problème il avait ou il m'a transmis. Donc, dès le début, il y a eu une espèce de réflexion sur qu'est-ce que le masculin. Il y a des mecs, mon père me transmettait une vision un petit peu comme ça, dure et résistante, performative du masculin, tout en sachant très bien lui-même qu'il était fragile et qu'il était vulnérable et qu'il était faillible. Donc, voilà, j'ai compris que le masculin, c'était compliqué. Que c'était pas un truc comme ci ou comme ça, c'est que c'est un objet en soi. Ensuite, j'ai toujours ressenti un certain malaise dans le masculin. Je suis viril à certains égards, mais à plein d'autres égards, je suis pas viril, je suis pas très costaud, je suis plutôt gringalet, j'aime pas trop la viande, je préfère manger des concombres et des poivrons, enfin bon, voilà, ça c'est... Je picole pas, bon... Et donc j'ai aussi senti qu'il y avait des cultures masculines et que moi, à la fois, j'adorais jouer au foot et j'aimais pas picoler ou j'aimais pas bouffer un barbecue, tu vois. Donc ça, j'ai senti qu'il y avait aussi des cultures masculines ou des sociabilités masculines qui pouvaient se traduire par des formes plus ou moins subtiles de virilité. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir des cultures... viril ou sous-viril ou sur-viril, enfin tout ça, ça fait partie aussi, je crois, de l'expérience du mec que je suis. Et puis il y a eu aussi le féminisme. Je me définis comme un féministe, c'est grâce à ma femme en particulier, et ça c'est aussi une réflexion qu'on a sur le masculin, parce que qui dit féminisme dit renvoie à la domination masculine et renvoie aussi à toutes les manières qu'on a d'être un mec. Il y a plein de mecs qui se posent pas la question, qui trouvent que qui sont plus ou moins misogynes, plus ou moins homophobes. Moi, je déteste cette masculinité-là. Moi, je suis féministe. J'aurais parfaitement pu être gay. Il se trouve que je le suis pas, mais j'aurais parfaitement pu l'être. Enfin, et donc, je trouve que c'est intéressant de repenser le masculin à la lumière du féminisme, parce que c'est le féminisme qui a compris que il n'y avait pas qu'un seul type d'homme, mais plusieurs formes de masculinité, et notamment des masculinités qui pouvaient être soit violentes, soit respectueuses, soit égalitaires. Et c'est ça qui m'a poussé à faire un de mes derniers livres qui s'appelle « Des hommes justes ». Oui, le masculin peut se réconcilier avec les droits des femmes, et on peut parfaitement être un mec, un vrai mec, si je puis dire, même un côté un peu viril, même bourrin, pourquoi pas, tout en étant très respectueux des droits des femmes et des droits de tous les hommes, bien sûr.
Ok. Et justement, dans, dans Des Hommes Justes, tu essaies de redéfinir un petit peu la masculinité. Moi, il y a un truc qui m'attriste un peu aujourd'hui, c'est que dès qu'on parle de masculinité, on y met à côté le mot, l'adjectif toxique. Je trouve que c'est un peu triste. C'est quoi ta perception, toi, justement, sur aujourd'hui cette définition dans la société où on vient à chaque fois à coller le terme toxique à côté de masculinité, quoi?
Je pense d'abord qu'il faut entendre la critique que ça porte. Voilà. Il y a une masculinité toxique, oui. Voilà. Ça peut être un mec qui emmerde les nanas, ça peut être des misogynes, ça peut... Bon, donc ça existe. Maintenant, dire que tout homme est par nature un mec dominateur, relou, agressif, etc., ça, non seulement c'est faux, mais c'est même injurieux pour des millions de mecs. On sait très bien qu'il y a des millions de papas, de grands frères, de maris qui sont des mecs super et qui se posent et qui s'interrogent sur eux-mêmes. Donc dire la masculinité est par nature toxique, évidemment que c'est un abus. En revanche, moi j'ai essayé dans mes livres de m'interroger à la fois sur la masculinité pathologique ou toxique, ce qui n'est pas exactement la même chose, et d'un autre côté sur des formes de masculinité juste. Voilà, qu'est-ce que c'est que la justice de genre? Qu'est-ce que ça veut dire être qu'est-ce que ça veut dire qu'être dans une forme de justice vis-à-vis des femmes et aussi de tous les hommes et notamment des masculinités dans lesquelles on se reconnaît pas. Donc être un homme gentil, doux, sympa, c'est très bien, mais moi je parle de justice. Et la justice, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que ça renvoie à l'égalité, au fait de pas toujours réclamer le pouvoir, au fait de pas parler tout le temps de soi-même, donc de pas monopoliser ni la parole, ni les responsabilités, ni le pouvoir, ni le sacré, hein, parce que ça renvoie aussi aux religions. Donc voilà, c'est une manière que j'espère un peu nuancée de répondre à ta question. Mais effectivement, on peut pas. Le féminisme est un truc très important aujourd'hui qu'il faut connaître, lire, respecter. Mais on peut pas non plus en conclure que tout mec est par nature toxique. Ça n'a, on sait bien que ça n'a aucun sens.
Tu disais tout à l'heure que tu te revendiquais féministe et que c'est en grande partie grâce à ta femme. Qu'est-ce qu'elle t'a inculqué?
Bah, le fait de se poser la question, le fait d'être dans un rapport d'égalité. Mais en disant ça, d'abord, je réclame pas des médailles, parce que je veux dire, aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt normal d'être dans une forme de recherche d'égalité ou de respect ou de non-domination. Et puis, deuxièmement, la culture patriarcale nous intoxique tellement, garçons et filles, qu'en fait, on n'en a jamais fini de réfléchir à ses propres problèmes de masculinité ou on n'en a jamais fini de se dire à quel point tout ça, c'est complexe. Et je vais te donner un exemple. J'ai 3 filles.
Bravo.
Bravo, je suis fier de mes 3 filles.
C'est tout un programme.
Ouais. Mais j'ai jamais joué au foot avec elles. Si j'avais eu un garçon, je suis sûr que j'aurais joué au foot avec lui. J'ai jamais joué au foot avec elle. Et si tu me demandes pourquoi, ben je vais avoir du mal à te répondre. J'ai fait plein de trucs. Enfin, je veux dire, j'espère être un bon papa, présent, etc. Mais et là, ça montre bien qu'il y a un petit truc dans ma tête qui n'était pas complètement clair avec ça. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit putain merde, ça c'est grave quand même quoi. Et alors récemment, avec ma dernière fille qui a 7 ans, je me suis dit, bon, ben, je vais me rattraper et maintenant on joue aux échecs. Bon. Alors voilà, je dis rattraper entre guillemets parce que ça, c'est un truc que mon père m'avait appris, les échecs, et puis c'est resté comme ça une culture un petit peu masculine pour moi. Alors que, comme chacun sait, il y a une série super sur Netflix, ouais. Le jeu de la dame, qui met en scène justement une femme. Mais ça montre
qui
bien,
est,
si
mais
tu
qui
veux.
Qui est dans un univers de mec, hein, pour le coup.
Qui est par ailleurs dans un univers de mec. Mais si tu veux, ça montre bien que, j'allais dire, même moi, au sens où je réfléchis depuis des années sur le masculin, je lis des auteurs, des autrices féministes, Et ben pourtant, tu vois, je me prends encore à être... voilà quoi. Et puis, je suis pas sûr d'être un mari égalitaire. La charge mentale, je pense que ma femme, ça la ferait bien rigoler si je commençais à faire des grands discours. Voilà, donc on n'en a pas fini, si tu veux, de se déconstruire en tant que mec. Et je crois que c'est d'abord une bonne chose. Et ça n'empêche pas qu'on ait une sociabilité virile. On a le droit de se faire un match de foot entre potes. On a le droit de parler moto et bagnole. C'est pas les mêmes choses.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Et notamment chez pas mal de jeunes mecs avec qui je discute, etc., qu'il y a pas mal de culpabilité justement autour du fait de justement faire des activités, comme tu dis, viriles, quoi. Comment tu l'analyses, toi ?
Bah parce que je pense que c'est précisément parce qu'on dit beaucoup masculinité toxique, on le dit, on le met à toutes les sauces. Donc, beaucoup de mecs commencent à confondre virilité, masculinité, toxicité, négativité. Et je pense que c'est une erreur complète. Parce que une chose est le côté politique du masculin, et ça, ça renvoie au féminisme, au respect, à l'égalité. Ça, c'est le côté politique, si je puis dire. Et d'un autre côté, il y a la sociabilité, la culture, les loisirs. On a le droit de faire de la muscu, on a le droit de boire des bières entre potes, on a même le droit de parler nana entre potes, parce que de toute façon, les filles, elles parlent le mec entre elles. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la justice de genre, le côté politique d'un côté, et de l'autre, la sociabilité, où je crois que là, on a le droit d'être complètement libre. Enfin, en tout cas, c'est ma position, quoi, parce que il y a un genre masculin, et je crois que, voilà, quoi, on a le droit. Moi, j'ai fait du foot passionnément, j'adore les histoires, j'adore, je sais pas moi, parler des belles montres, parler des fusées, parler des trucs un peu mecs, parler des bagnoles, j'adorerais m'acheter une Tesla, bon, voilà, ça c'est des trucs un peu mecs, un peu virils, bon. Et je crois que c'est qu'on peut parfaitement assumer cette dualité. Donc il y a pas mal de mecs qui se sentent un peu mal à l'aise, sans doute à cause de ça, parce qu'ils mélangent des choses qui n'ont rien à voir. Et je pense aussi que MeToo, qui est pour moi quelque chose de positif, MeToo a stressé beaucoup d'hommes sur leur manière de séduire. Alors moi, il se trouve que je ne suis plus sur le marché, parce que bon, j'ai 47 ans, je suis marié, père de famille, bon. Mais c'est une vraie question, quoi. Si j'avais 20 ans, je sais pas comment je ferais, parce que c'est compliqué, parce que tu dragues et puis à partir de quand tu deviens relou, à partir de quand, tu vois, quelle est la différence entre le dragueur, le séducteur, le mec peut-être qui insiste un petit peu trop, et de l'autre côté, le mec qui devient complètement relou, qui est même agressif, voire qui fait des formes de violence morale. C'est fondamental de faire cette différence, parce que d'un côté, tu es un dragueur, et de l'autre, tu deviens un salaud. Voilà. Et ça, c'est des questions. Je comprends qu'il y ait plein de jeunes aujourd'hui qui se posent la question, et cette question est difficile à résoudre.
En fait, donc moi, je suis célibataire depuis peu, là. Alors, tous les bars sont fermés, donc mais je crois que jamais j'irai draguer dans un bar, aujourd'hui, dans la société actuelle. Franchement, je prends pas le risque.
Ouais, mais c'est dommage, parce que si tu veux draguer dans un bar, qu'est-ce que ça veut dire draguer ? Si c'est dire, salut, ça va, je te paye un verre et on discute, ma foi, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, heureusement que c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, il y a plein de nanas qui font pareil. Maintenant, on sait très bien ce que c'est qu'être lourd. On sait très bien ce que c'est qu'être abusif. Et je parle même pas de la violence. Et ça, voilà, je crois qu'il faut être vraiment super clair. Il y a plein de mecs qui sont mal à l'aise parce qu'ils ne se sont pas posé la question. de cette différence. Mais une fois qu'on est clair avec soi-même, rencontrons-nous, voilà. Et là, je trouve qu'au contraire, c'est ça la beauté de la vie, et c'est ça qui fait aussi que cette période Covid est si dure.
Ouais, je suis d'accord. Je vais te demander un peu de remettre ta casquette d'historien. Comment t'analyses, toi, à l'aune de l'histoire de l'humanité, les progrès qu'il y a pu y avoir là, ces 50, 60 dernières années, en termes d'égalité des droits entre hommes et femmes, entre femmes et hommes?
Alors, si tu me fais mettre ma casquette d'historien, je te corrige, tu vois.
Bah vas-y,
c'est
vas-y.
Ça le... Non,
corrige-moi avec grand plaisir.
Je rigole. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu dis 50, 60 ans. La naissance du féminisme, pour moi, c'est la Révolution française. C'est au moment de la Révolution française. Donc, ça nous fait remonter quand même facilement à deux siècles, enfin 220 ans, tu vois, facilement.
Qu'est-ce qui fait que la Révolution française invente le féminisme?
Eh ben, pourquoi? Parce que, d'abord, la Révolution française a eu tout un aspect patriarcal. C'est-à-dire que quand on dit les droits de l'homme, pour les révolutionnaires, il y avait quand même un droit, c'était les droits de l'homme avec un pénis, quoi. C'était les droits du mec. Et beaucoup de femmes se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Dès lors qu'on parle de droits, et qu'il n'y a aucune raison que nous, femmes, on en soit privées. Et puis, il y a aussi une chose fondamentale, c'est que la Révolution française introduit deux notions qui appartiennent à notre modernité, l'égalité et la fin des privilèges. Donc, la Révolution française a posé l'égalité civile et a refusé aux nobles ou aux clergés des privilèges. Bon. Mais immédiatement, et pour les raisons que je viens de te dire, des femmes se sont dit « Mais vous, les mecs, vous nous parlez d'égalité, mais qu'en est-il de l'égalité femmes-hommes ? Vous, les révolutionnaires, vous nous parlez de fin des privilèges, mais regardez vos privilèges masculins, ils sont écrasants, ils sont partout. » Donc, au moment où la Révolution française...
Déjà à l'époque.
Mais bien sûr, okay. Bien sûr. Il y a des textes de 1789 qui sont des textes magnifiques, qui montrent bien que la pensée féministe est déjà là. Et alors il y a un texte très 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 connu que beaucoup connaissent, qui est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges, 1791. Donc on est complètement dans cette période. Et ensuite là où c'est toi qui as raison, c'est qu'il y a eu une accélération depuis 50-60 ans avec, en France en tout cas, le droit de vote, des droits sociaux, des droits familiaux, notamment le divorce par consentement mutuel, et puis bien sûr les droits sexuels et reproductifs, la pilule, l'IVG, et ça c'est fondamental. Donc maintenant, le fait d'avoir en tant que femme des droits, de revendiquer une égalité, liberté, ambition professionnelle et intellectuelle, c'est complètement entré dans les mœurs, et je pense même que ça fait partie de la définition même de la démocratie. Et ça je crois que c'est une des plus belles choses qui soit arrivée au XXe siècle.
Elle prend... Selon toi, où elle prend naissance la domination masculine, historiquement?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Moi, j'aurais d'abord tendance à exclure les raisons biologiques. Okay. C'est-à-dire que en moyenne, les hommes sont plus musclés, en moyenne, les hommes sont plus musclés que les femmes, sécrètent davantage de testostérone. Et donc, on pourrait croire que l'agressivité, la violence sont à la base des structures patriarcales. Mais je pense que c'est pas vrai, parce que quand on regarde vraiment ce que c'est que la domination masculine ou le patriarcat, on s'aperçoit que la violence joue un rôle, mais pas un rôle fondamental. Les structures patriarcales, elles sont d'abord dans les croyances, dans les normes, dans les institutions. Et je vais te donner un exemple. Un prêtre, par exemple. Un prêtre, c'est vraiment pas un gars viril, c'est vraiment pas un gars musclé. Mais quand tu regardes la conception de l'Église catholique, un prêtre, c'est une des figures les plus patriarcales qui existent. C'est lui qui est en dialogue avec avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est comme ça dans la plupart des monothéismes. Donc, pour moi, les structures patriarcales, ça renvoie d'abord à une certaine conception. Et je pense que s'il faut remonter à quelque chose de très ancien, je dirais que c'est plutôt le fait que les femmes fabriquent les enfants. Et donc, il y a une espèce de ce que j'appellerais de dépense maternelle. Parce que pour fabriquer un petit humain, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps et ça comporte aussi des risques. Ça va être par exemple 9 mois de grossesse, ensuite ça va être un accouchement qui est toujours un moment critique et ensuite ça va être l'allaitement. Et ça, il est possible qu'il y ait une forme de dépenses maternelles en termes d'énergie ou de risque, et qu'il est possible que certains hommes se soient figurés qu'eux, ils étaient au contraire dans une forme de liberté. Les femmes s'occupaient du maternel et du domestique, et les hommes s'occupaient de tout le reste. Donc là, ça définit une espèce de liberté, masculine. Mais je crois aussi que le plus important, c'est... au néolithique, donc dans les années, c'est-à-dire il y a à peu près 8000 ans à peu près, au moment où les humains se sédentarisent, où on invente l'agriculture et l'élevage, et là, il y a des choses à posséder. Et très rapidement, ce sont les hommes qui se sont mis à posséder ces choses-là, probablement parce que les femmes étaient déjà un peu occupées avec... avec le maternel et le domestique. Et ce qui explique que quand les grands thèmes de la civilisation sont inventés, c'est tout de suite les hommes qui les monopolisent. L'écriture, en à peu près 3 millénaires avant notre ère, l'État, les monothéismes, la religion. Donc quand tu prends les grands thèmes, on va dire, de ce qu'on appelle la civilisation, monothéisme, écriture, État, les armes de guerre aussi, au deuxième millénaire avant notre ère, c'est tout de suite un monopole masculin. Et ça, c'est documenté. Donc, en fait, pour moi, la domination masculine, elle s'explique par des aspects pas tant biologiques que culturels, normatifs, et surtout le plus étonnant, même fascinant d'une certaine manière, c'est que ça s'installe extrêmement tôt dans nos sociétés.
J'avais lu un article... qui disait que, selon Françoise Héritier, donc, qui est anthropologue, elle raconte carrément que le fait de pouvoir mettre au monde un enfant représentait un tel pouvoir, complètement dingue, hein, notamment de pouvoir créer les héritiers, etc., que les mecs se sont dit « Ok, donc vous allez garder ce pouvoir-là, mais c'est une vraie menace pour nous en tant que mecs, parce qu'il y a un moment donné, alors, je sais pas comment t'as vécu, toi, la grossesse, mais moi, c'est la première fois que j'ai vraiment eu la sensation de ne servir à rien du tout d'un point de vue de la survie de l'humanité, quoi. Tu vois, vraiment, je me suis dit, je peux mourir demain, quoi qu'il arrive, en fait, notre enfant vivra, alors que si il arrive un truc à ma compagne, l'humanité va pas perdurer, quoi, tu vois. Je sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Parce qu'elle, vraiment, elle a dit, ok, bah, on s'est dit, il y a un moment donné où nous, il faut bien qu'on se rende compte qu'on servait quelque chose, quoi, tu vois, en tant que mec.
Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a un enfant, on se dit à quoi je sers, j'ai pas de lait. Tu sens que l'enfant a physiquement moins besoin de toi que de sa maman. Mais bon, ça te pousse aussi à trouver ta place ou du moins à t'interroger sur... sur la place qui est la tienne. Mais il y a un truc aussi intéressant dans ce que tu dis et dans ce qu'on a ressenti, toi et moi, c'est que chez la majorité des mammifères, peut-être 85 ou 90% des mammifères, le père, le mâle, ne sert à rien, en fait. Il est là pour mettre la petite graine, comme on dit aux enfants, pour apporter... pour inséminer ou pour mettre du sperme, et ensuite il ne participe pas à l'élevage ou à l'éducation des petits. C'est les femmes qui, enfin c'est les mères qui s'en occupent. Ça veut dire que pour la grande majorité des mammifères, oui, l'homme ne sert pas à grand chose une fois qu'il a permis à l'espèce de se reproduire. Mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des exceptions chez les mammifères. Alors le loup fait exception, le lion, je crois, fait exception, mais une exception majeure, ben, c'est l'être humain, justement. Le mec se barre pas. le mec participe à l'éducation.
Pas tout.
Non, bon, il y a des... Non,
la
bien
plupart
sûr.
Des mecs se barrent.
Bien sûr, il y a des mecs qui se barrent, et on sait très bien le genre de drame que ça peut occasionner. Mais en tout cas, la plupart des hommes restent et ça forme le couple parental avec ensuite une répartition des tâches plus ou moins égalitaire. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que l'être humain est une exception chez les mammifères. Le mec reste. Voilà, ça pourrait être un slogan, quoi. Le mec reste, mais je crois qu'il reste à ses propres conditions. Et ça fait partie aussi de la domination masculine. Dans l'espèce humaine, le mec reste, mais à ses conditions.
C'est intéressant, ça. C'est vrai que... ses conditions.
Bah ouais, parce qu'ensuite, il va dire, je reste, mais toi, tu vas t'occuper du maternel et du domestique, et puis moi, je vais m'occuper de tout le reste. Et on le voit bien, il y a une espèce de chantage. Il y a un chantage qu'on voit aujourd'hui dans des millions de couples. C'est-à-dire, alors, ça s'appelle pas chantage. Là, moi, je le dis de manière un peu brutale pour que nos auditeurs prennent conscience de ça. Mais oui, il y a un chantage. Par exemple, le gars, il laisse traîner ses chaussettes ou il fait pas les courses. À la fin, la nana, elle craque et c'est elle qui ramasse les chaussettes et qui fait les courses. Et c'est pareil pour les enfants. Et c'est pareil pour plein de trucs. Donc, il y a un aspect qui consiste à dire... Je le fais pas parce que je sais pas bien faire, parce que ça m'emmerde un peu. Bon, et à la fin, c'est la nana qui le fait avec les inégalités, les injustices, les discriminations qu'on devine. Et cette forme de chantage, je crois, est très ancrée dans, je vais pas dire dans la nature masculine, mais dans la construction du masculin et notamment dans cette paternité bancale qui parfois nous fait souffrir. Et parfois nous donne le beau rôle.
Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc aussi où j'ai un peu l'impression que les mecs, on leur apprend pas à prendre soin à la fois d'eux et de leur environnement, et notamment, tu vois, de ramasser quand il y a des chaussettes qui traînent. Je sais pas quel est ton point de vue, toi, là-dessus, sur. Tu sais, je sais pas si t'as vu Queer Eye. Moi, Queer Eye m'a totalement bouleversé. Je t'invite à le voir si tu l'as pas vu, vraiment. Où tu te retrouves avec alors 5 mecs. Alors certes, ils sont gays, c'est un peu stéréotypé, mais d'un autre côté, ils vont voir des gars hétéros et à qui ils montrent en fait que c'est très simple de faire des toutes petites choses pour se remettre en valeur, quoi.
Alors moi, dans mon livre Des hommes justes, je me suis demandé comment l'inégalité dans le couple s'installait. Et alors, je donne un petit peu des réponses toutes faites, mais je crois que beaucoup de mecs s'y retrouveront. Alors d'abord, il y a ceux qui ne se posent pas la question. C'est la nana qui fait tout, c'est comme ça, c'est leur culture. Ensuite, il y a les mecs qui vont dire « Attends, je fais 15%, mais sois contente parce que j'en fais quand même plus que mon père et plus que la majorité de mes potes. » Ça, c'est le côté « Sois heureuse, quoi. J'en fais 15%, c'est déjà pas mal. » Ensuite, il y a ce que j'appellerais moi, j'ai pas mal été là-dedans. Je le suis sans doute encore un peu. C'est ce que j'appellerais l'inertie organisée. L'ignorance assumée. Je sais pas faire. Ouais, je veux bien faire à manger ou je veux bien faire la vaisselle, mais explique-moi, je sais pas faire. Puis à la fin, la nana, c'est quand même plus simple qu'elle le fasse toute seule parce que le gars, c'est vraiment, c'est trop un boulet. Et donc ça, voilà, c'est une espèce d'inertie organisée. Et ça, je crois qu'on peut, on doit lutter contre ça. Mais ça renvoie aussi à notre éducation. Parce que moi, quand j'étais enfant, mes parents me demandaient pas de faire quelque chose. Ils me demandaient de rien faire, à part de bien travailler à l'école. Donc ils me demandaient de rien faire. Et de fait, j'ai jamais rien fait. Ce qui fait que je suis arrivé à 20-25 ans. Je savais faire cuire un œuf et des pâtes, mais enfin, pas beaucoup plus. Là, maintenant, j'ai quand même beaucoup, beaucoup progressé, au sens où je sais faire pas mal de choses. Maintenant, là encore, je mérite aucune médaille. C'est simplement que j'ai rattrapé le temps perdu, j'ai rattrapé mon ignorance, mon incurie, ma mollesse. Et ça, je crois que c'est du devoir de chaque mec de se mettre un peu au diapason, parce que ça renvoie vraiment à ce que j'appelais tout à l'heure le caractère politique du masculin. Égalité, respect, féminisme. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis 10-15 ans.
la transition est toute faite, mais donc tu sors là ces dernières semaines un bouquin qui s'appelle Un garçon comme vous et moi. Qu'est-ce qui, où là pour le coup tu racontes vraiment ton parcours très personnel avec plein d'anecdotes, des photos, etc. De ton parcours de masculinité. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de passer des hommes justes où tu étais plutôt en train d'amener un regard un peu théorique, on va dire, et puis quelques trucs pratiques à une expérience plus perso là pour le coup où tu parles de toi quoi.
Des hommes justes, c'est une utopie. Je pense qu'aujourd'hui, des hommes justes, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister, pas parce que les mecs sont méchants ou salauds, mais parce que la structure sociale est ainsi faite que même si on voulait absolument être juste, on aurait du mal et ce serait même impossible. Je vais donner un exemple. Moi, en tant que mec ou en tant qu'homme intellectuel, j'ai la chance d'avoir accès à la sphère publique. Quand je prends la parole, on est dans une société qui va davantage m'écouter que quand c'est une jeune femme, par exemple, qui prend la parole. Et ça, même si j'en suis conscient, j'ai un bénéfice objectif au fait que je suis un homme. Donc notre société est ainsi faite que c'est difficile en fait d'être un homme juste, même si bien sûr on peut avoir un rôle personnel, intime. À jouer.
Le truc après, c'est que tu fais partie des rares hommes qui prennent la parole sur le sujet de la masculinité qui les concerne, parce que généralement, c'est plutôt des femmes qui s'en emparent.
Par ailleurs, il y a assez peu de mecs. Bon, il y a toi, bien sûr, et on est quelques autres.
L'histoire de ce podcast, à la base, c'est que c'est Mimi, qui est la rédac chef de Mademoiselle, qui dit ok, j'en ai marre. Vraiment, le premier épisode, c'est ça, dans son intro, elle est là. Ça faisait longtemps, en fait, que j'attendais que ce podcast sorte, et globalement, il n'y a aucun mec qui a commencé à le faire, alors je vais le faire à votre place, quoi. Donc elle m'a demandé de co-hoster le truc. C'était pas.
Donc même toi même tu mérites pas de médaille quoi.
Non, du tout, et au contraire, quand elle a arrêté et là elle m'a proposé de reprendre le podcast, j'avais une trouille bleue à reprendre ce podcast, parce que pour moi je suis assis sur une boîte de dynamite quoi, tu vois.
En tout cas moi c'est vrai que je parle pas mal de masculin, pour toutes les raisons qu'on a dites, et je suis passé du général au particulier parce que des hommes justes, c'est une utopie, alors qu'autour de nous, il n'y a que des hommes réels. Il n'y a que des mecs, plus ou moins bien, plus ou moins cons, plus ou moins sympas, comme on est tous. Pour passer de l'utopie, du modèle, de l'idéal, à la concrétude d'une expérience masculine, j'ai voulu raconter l'enfance d'un mec que je connais un peu, puisque c'est moi-même. Et donc, j'ai voulu faire une socio-histoire, pour le dire de manière un peu pompeuse, à la fois histoire, à la fois sociologie, de ma garçonnité, c'est-à-dire la manière dont, né garçon, je suis devenu un homme. Être un homme, ça s'apprend. Il y a une production du masculin. Il y a une construction du masculin. Et j'ai essayé, moi, de me poser la question pour moi-même, savoir comment... comment le petit Yvan était devenu ce que je suis, celui le mec, le père, l'intello, le prof. Parce que ça, je crois que c'est toute une société qui met en œuvre, met en forme cet apprentissage. Alors, par exemple, ça va être des collectifs, la famille, l'école, les clubs de sport... La caserne, parce que moi, je suis un des derniers à avoir fait mon service militaire. Ouais. T'as fait ton service militaire, toi ?
J'étais le dernier. Non, j'ai pas fait. J'étais vraiment limite.
Moi, je l'ai fait. Je suis de 73. J'ai fait mon service militaire. Et c'est sûr que la caserne, c'est une expérience typiquement masculine. Et donc, ça, c'est des collectifs qui créent, qui fabriquent de la garçonnité. Et il y a un autre truc aussi important, c'est des faits sociaux. Les faits sociaux, ce sont des objets culturels, collectifs, qui fabriquent de la garçonnité. Alors, je vais donner des exemples et tout le monde comprendra. Par exemple, les dessins animés.
Goldorak.
Goldorak, école de virilité à l'heure
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était un peu l'ancêtre de quoi d'ailleurs de, de Gundam, non, je sais, tu vois.
Ouais, c'était un robot anthropomorphe qui avait la forme humaine en acier, qui défonçait les méchants. Et ça, c'était un stage de virilité à l'heure du goûter, hein, à 4h30, avec donc, là encore, les plus vieux s'en souviendront, le pilote de Goldorak, qui s'appelle Actarus, il est bien musclé, on voit ses cuisses, son regard un peu comme ça, viril.
Les cheveux longs quand même, tu vois.
Cheveux un peu longs, et puis d'ailleurs lui aussi est un orphelin justement, comme quoi lui aussi est une figure de vulnérabilité. Donc les dessins animés, voilà.
Et puis Actarus, tu le racontes aussi dans le bouquin, c'est qu'il a un côté très vulnérable aussi.
Il a un côté vulnérable parce que sa planète a été détruite. Et alors, à ceux qui nous écoutent, je recommande la pause suivante. Vous zappez sur YouTube, vous tapez Goldorak générique, et vous allez voir de quoi on parle, parce que moi, ça me fait quelque chose de penser à ce générique. Bon, bref. Et puis après, vous revenez nous écouter.
Le générique français, hein, bien sûr.
Générique français, bien sûr. Bien sûr. Ça commence par « Accours vers nous, prince de l'espace hein. ». Bon. Voilà, ça c'est ce que j'appellerais de la culture matérielle ou un objet collectif. Mais il y en a d'autres. Ça va être par exemple...
Alors attends, juste avant de passer à autre chose, mais tu parles aussi de Candy.
Alors Candy,
parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant que tu fasses le parallèle.
Ouais, Candy, c'est aussi un autre dessin animé de mon enfance, de cette émission qui s'appelait Récréa 2. Mais Candy, c'était plutôt pour les filles. Candy, c'est une fille glamour, blonde, avec des super belles robes. Mais là encore, la nuance intéressante, c'est que petit 1, c'est elle aussi une orpheline. Et petit 2, elle se définit comme un garçon manqué. Elle se bagarre, elle grimpe aux arbres, elle a toujours une robe un peu déchirée, elle est toujours un peu crado parce qu'elle s'est roulée par terre. Donc elle aussi, en fait, elle est dans une forme de dualité garçon-fille. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans ces dessins animés qui ont tellement marqué ma génération, en fait, à la place d'un stage viril et à la place d'un stage fille glamour, en fait, il y avait quelque chose de très complexe. C'était déjà des filles-garçons, des garçons-filles. On était déjà dans une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la non-binarité. Enfin, c'était déjà une réflexion là-dessus.
Et Candy, c'était un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Candy.
Voilà, j'aimerais bien. Chante-le, tiens.
Non, ça va.
Alors, c'est pareil. Là, je recommande à nos auditeurs d'aller... Un
peu d'espièglerie, c'est la vie de Candy. C'est ça, non?
Voilà, voilà. Faut aller voir le générique. Parce
ça,
que c'est
je crois
aussi...
que ça a mal vieilli.
Ah, non, moi, écoute, c'est moi, je suis toujours...
un peu nostalgique.
Ouais, ouais. Et donc, en tout cas, il y a d'autres objets. Par exemple, les grands rendez-vous footballistiques. Par exemple, le mondial ou l'euro. Ça fait partie aussi d'une culture de genre, d'une fabrique collective de la garçonnité. Toute ma génération a vu la demi-finale de Séville, de France-Allemagne de 82. Toute ma génération a vu la finale de l'Euro 84, France-Espagne avec les buts de Platini. Bon, ça c'est vraiment une construction collective du genre masculin. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est intéressant et sur lequel on s'interroge trop peu, c'est la naissance du porno. Les films X commencent à la fin des années 70. Hein. Il y a par exemple Emmanuel, qui est plutôt un film, on dirait, de charme aujourd'hui.
Ouais, un peu érotique, quoi.
Ouais. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont, pendant mon adolescence, dans les années 80, pendant ma génération, à son profit ou à son détriment, le porno s'est démocratisé. Ça va être, par exemple, le 36-15 Oula qu'on voyait en affiche 3x4 à la ville comme à la campagne. Ça va être le fameux porno de Canal+, à la fin des années... en 85, au moment du...
Le premier samedi du mois.
Voilà, le premier ou le dernier samedi du mois, etc. Ça va être aussi... et ça... Alors aujourd'hui, les plus jeunes peuvent pas comprendre, parce qu'aujourd'hui tu tapes sur Google, je sais pas moi, chat, tu voudrais voir en fait un animal, puis en fait Google il comprend autre chose, et puis tu tombes sur des sites qui n'ont rien à voir. Bon, donc aujourd'hui, le porno est devenu un truc, si tu veux, non seulement massif, mais omniprésent. Je crois qu'on est à un tiers de la bande passante, ou un quart de la bande passante mondiale sur Internet qui renvoie au porno. Donc c'est complètement dément. Mais... dans les années 80, c'était encore assez, ça restait encore assez minoritaire. Et donc, il y a eu toute une génération qui a peu à peu, comme ça, découvert en tout cas, enfin découvert le porno, en tout cas su que ça existait.
Ouais, puis tu bravais l'interdit en regardant encrypté, même si tu n'avais pas le décodeur.
Parce que le fameux porno de Canal+ était crypté. Mm. Donc c'est vraiment l'époque des pionniers. Alors je le dis de manière, bon, c'est pas spécialement positif de pionnier, mais en tout cas c'était vraiment quelque chose qui démarrait, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui où maintenant c'est vraiment devenu un truc, ça fait complètement partie de la garçonnité, je crois. Et donc, dans ce livre, Un garçon comme vous et moi, j'ai essayé de comprendre comment je suis devenu garçon à travers des collectifs, une culture matérielle, à travers des objets qui m'ont peu à peu formé. Alors, j'oubliais aussi les jeux vidéo. Bon, alors le temps nous manque un peu, je vais pas trop... Mais les jeux vidéo, c'est né aussi pendant ma génération. Pac-Man ou Space Invaders, ça fait aussi partie d'une expérience de garçonnité avec le fameux joystick. Joystick, hein, qui ça veut tout dire. Le bâton de joie. Hein. Et là aussi, c'était une manière de se mettre en forme, de se mettre en œuvre, de se mettre en scène dans ce que j'appelle la garçonnité. Et ça fait partie de notre expérience à tous, même pour ceux qui sont pas nés comme nous dans les années 70.
Et tu fais un autoportrait qui est pas très reluisant de toi, parce que tu peux être dur aussi avec l'ado que tu as pu être, notamment avec les filles, tu sais, où il y a cet exemple de cette fille dont tu étais amoureux et dont que tu raillais avec tes potes. Ce qui est un truc, je crois qu'on a tous vécu en tant qu'ado, en fait. On s'est tous, en tout cas dans notre génération, je crois qu'on s'est tous mal comportés avec les filles d'une manière ou d'une autre, même si on trouvait ça débile, quoi, tu vois.
Oui, alors mal se comporter, faut savoir ce qu'on entend par là. Moi, c'est vrai que avec des potes, on se moquait d'une fille et c'était con. J'en ai honte aujourd'hui. Bon, c'était pas, il y avait pas de violence physique, heureusement bien sûr. Mais bon, c'était quand même des trucs.
Tu la traitais pas comme ton égal.
Ouais, c'était des trucs un peu de misogynie de cours de récré. Je crois que hélas, c'est très répandu même encore aujourd'hui. Et mais tu dis que je suis dur avec moi, c'est plutôt une réflexion sur ce que c'est qu'être un garçon. En tout cas, grandir comme un garçon, être élevé comme un garçon. Et par exemple, quand j'avais 15 ans, j'étais un dragueur lamentable. Enfin, j'ai pas le sentiment d'être encore un dragueur très brillant, mais en tout cas, j'étais un mauvais dragueur parce que j'étais dans une espèce de... Par exemple, j'écrivais des poèmes aux filles ou... je leur faisais des aveux, des confidences. Et à 15 ans, je pense que les nanas, elles attendaient plutôt un surfeur, un mec qui avait un scooter, un mec qui était très sûr de lui, et moi j'étais tout le contraire. Donc j'étais un dragueur mauvais, lamentable, et ça aussi, ça fait partie de mon expérience de garçonnité. Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Déjà, le mot draguer est un peu déplaisant, parce que, tu vois, quand tu tombes amoureux d'une fille ou quand tu es attiré par une fille, je sais pas, tu lui parles, tu fais connaissance. Tu vois, draguer tout de suite, c'est un petit peu artificiel. Mais moi, entre 12 et 22 ans, j'ai été un dragueur catastrophique. Ensuite, après, j'ai rencontré des filles. Et puis, il se trouve que à cet âge-là, les filles, elles étaient davantage désireuses de rencontrer des hommes qui étaient un peu plus intello, un petit peu plus dans le doute, un petit peu plus dans la réflexion, voire l'introspection. Et ça, c'était tout moi, pour le coup. Donc, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de succès. Mais j'étais plus dans la drague. C'était moi, tout simplement. Et donc, les cultures de drague, tout particulièrement hétéro, je crois que ça fait aussi partie des collectifs dont j'évoquais le nom tout à l'heure, et qui nous apprennent ou qui nous apprennent pas à devenir garçon. Voilà, il y a toute une culture de la drague qui, dans mon cas, a été plutôt fragile, pas très brillante, mais ça fait partie collectivement et individuellement de notre expérience de garçonnité.
Est-ce que tu as fait des trucs où tu t'es dit « Ok, c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec », alors qu'au fond de toi, il y avait ton ventre, tes tripes qui te disaient « Mais c'est complètement con ».
Je crois pas, parce qu'en fait, je te disais tout à l'heure que j'avais été très rapidement mal à l'aise dans le masculin. Et ce malaise dans le masculin, ça s'est traduit par une réticence vis-à-vis de plein d'attitudes que des copains avaient, qui étaient pour moi des attitudes de mise en danger. Par exemple, je me souviens que j'ai participé à des soirées où les mecs se cuitaient, mais fort. Enfin, je veux dire, on était en troisième. On allait se payer on allait s'acheter de la vodka, du rhum et du Malibu au Félix Potin du coin. Et le soir, il se cuitait grave. J'avais aussi toute une bande de potes qui fumaient pas mal de shit. Et ça, je l'ai pas fait. J'étais avec eux, hein, physiquement. Enfin, j'étais avec eux au sens où j'étais dans les soirées, tout ça. Mais moi, je me mettais pas en danger. Ou peut-être parce que j'avais cette culture un peu fille-garçon, ou peut-être parce que j'étais dans une forme de protection, parce que j'osais pas. Mais en tout cas, je sentais bien que c'était classe de le faire, que ça faisait un peu... ça aurait fait monter ma cote de mec, mais je le faisais pas. Je pense que j'étais déjà dans une réflexion un petit peu, je dirais pas intello, mais j'avais envie d'écrire, j'étais plutôt dans une forme de d'introspection et ça c'est en tout cas quand j'avais 15 ans, c'était très peu viril ça pour le coup. Donc voilà, je te répondrai plutôt par la négative, mais pour moi je crois qu'au fond j'ai bien fait. Ça veut parce que bon, enfin je veux dire la question n'est pas de se cuiter, c'est très bien de se cuiter de temps en temps, mais c'est plutôt que si je le sentais pas, eh ben il fallait pas le faire. Parce que je crois qu'il y a plein de mecs qui ont fait des choses de mise en danger, par exemple conduire bourré, ce qui est quand même catastrophique. Et quand on dit mise en danger, ça peut vraiment se terminer par
par la mort.
Bah ouais. Moi j'ai plein de potes dont je parle dans mon livre parce que c'est des potes qui ont eu une vie cabossée et qui ont parfois perdu la vie. Je leur rends hommage. Patrick, qui a fait 15 ans d'alcoolisme entre l'âge de 15 ans et l'âge de 30 ans. Mon pote Benoît ou mon pote Yann qui se sont suicidés. Mon pote Krishna qui s'est tué en montagne parce que, bon, ben, sans doute, il a fait des trucs qui étaient un petit peu dangereux. Et ça, c'est ça aussi des histoires de mecs. Les histoires de mecs, c'est aussi pas être conscient de ses limites, boire le verre de trop, prendre la bagnole alors qu'il fallait pas. Faire le sport trop dangereux, on croit qu'on est un mec, on croit qu'on est viril, et puis qu'est-ce qu'on se fait ? En fait, on se détruit, on se tue. Et donc, une des questions que je pose à la fin de mon livre « Un garçon comme vous et moi », c'est de dire, est-ce que la vie d'un mec, est-ce que le destin d'un mec, c'est soit tuer, soit être tué ? Est-ce que le destin d'un mec, c'est soit être dans la violence, l'agressivité ? Ou soit au contraire être dans des formes d'autodestruction. Et je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui comprennent ce que je veux dire, parce que des formes d'autodestruction, il y en a. C'est pour ça que c'est injuste de dire la masculinité toxique, en veux-tu, en voilà. Il y a aussi des mecs qui se mettent dans des formes d'autodestruction, qui s'abîment. Et ça fait aussi partie, je crois, de l'expérience masculine, et donc des histoires de mecs dont on est en train de parler. Moi, j'ai essayé de faire attention à ça, même si, à certains égards, je sens que je suis fragile. Je sens que je suis fragile par mon angoisse, par certaines formes de souffrance, par le fait que je suis en surtravail. Et je sens que, ouais, je sens que je suis fragile et que je pourrais être dans des formes d'autodestruction, alors qui ne seraient pas nécessairement alcool et drogue. Mais je crois que ça vient vite, toutes ces choses-là.
Et on revient donc au sujet dont on parlait au tout début, qui était les mecs ont aussi du mal à aller demander de l'aide, parce que quoi qu'il arrive, quand tu es en train de t'autodétruire, la meilleure chose, c'est d'être capable de venir dire à l'aide, je ne vais pas bien. Et il y a tellement de mecs qui sont incapables de le faire parce que on leur a dit... depuis tout petit, il ne pleure pas.
Ouais, ou comme mon père me disait, t'es pas en sucre, tiens bon. Mais il y a autre chose aussi, c'est que pour pas mal d'hommes, ce que j'appelle ces addictions ou ces formes de mise en danger, ça fait partie du masculin. C'est-à-dire que le mec qui est bourré et qui prend quand même sa bagnole ou sa moto...
Il est cool.
Ouais, il se dit, je suis un vrai, quoi. Et en fait, il se rend pas compte... qu'il est dans une certaine forme de masculinité, ça va être, on va dire, le modèle de virilité obligatoire, ou une masculinité un peu bourrin, un peu conne. Et il s'aperçoit pas qu'il y a d'autres manières d'être un mec. Par exemple, un mec, c'est quelqu'un qui va confisquer les clés de bagnole de son pote, parce que précisément son pote est bourré. Et son pote, il va dire, putain, qu'est-ce que tu fais? Viens, je te tape. Bah ouais, bah ils vont se battre. Mais au moins, le deuxième, il aura confisqué les clés, quoi. Il aura empêché le gars de se foutre en l'air. Et ça, c'est aussi... je donne cet exemple-là, mais je sais que y a beaucoup de gens qui ont un pote qui s'est foutu en l'air à 18 ans en sortant de boîte. Alors, ça se trouve, c'est plutôt dans les milieux ruraux parce que, bon, à Paris,
tu
on prend
la voiture.
Tu prends, voilà, dans les milieux. À Paris, tu prends le métro, bon, ou le bus. Mais c'est des trucs, si tu veux, en fait, c'est dramatique. J'ai pas envie d'en rire parce que c'est des formes d'autodestruction collective. C'est des formes d'aliénation masculine. Je pense qu'il y a des formes d'aliénation masculine qui peuvent se traduire, je te dis, par des comportements, qui se termine de manière dramatique, parce que c'est pas simplement le mec qui se fout en l'air, c'est aussi, voilà, bon, il avait toute une famille, etc. Et donc, dans mon livre Des hommes justes, je parle de cette notion d'aliénation masculine, c'est-à-dire qu'un homme, il peut être toxique, il peut être violent, il peut être agressif, mais il y a aussi des formes d'aliénation, c'est-à-dire, il est pas capable, le gars, il est pas capable de se mettre loin du modèle de virilité obligatoire qu'on lui a inculqué tout jeune. Il pense que c'est ça être un mec. Alors ça se traduit dans la drague, dans la consommation de, je sais pas, d'alcool par exemple, ou dans le surtravail, ce qui pourrait être ça, ça pourrait me menacer justement. Et ça c'est parce que beaucoup de mecs ont du mal à prendre du recul sur le masculin et sur la culture qu'on leur a inculquée tout jeune.
Et puis c'est dur aussi de faire ce que t'as fait. J'ai un peu fait pareil à l'adolescence, c'est-à-dire que pour moi, les gens qui buvaient et tout, c'était pas cool, quoi, tu vois. Mais il faut en payer le prix socialement. C'est dur, ça.
Ah ben, c'est sûr que moi, quand par exemple, je me souviens, c'est un truc que je raconte dans mon livre sur un garçon comme vous et moi, on campait, on était dans une super petite île bretonne qui s'appelle Watt, on campait, et puis autour du feu, le joint tournait. Ben, moi, je passais mon tour. Moi, je passais le joint direct à mon voisin. Et alors, comme je me sentais un peu con, je me sentais pas très cool, à la fin, je prenais le filtre, et puis, c'était un ticket de métro, et puis je susautais le filtre du joint pour faire genre, moi aussi, je me suis un peu drogué. Mais c'était grotesque. Mais ça, ça montrait que j'étais justement mal à l'aise, et que, comme tu dis, tu en payes le prix, sous la forme du mec pas cool, du mec femmelette, du mec qui se cuite pas, du mec pas rigolo, il y a un prix à payer. Alors, le prix à payer est plus cher quand t'as 15 ans que quand t'as 30 ans. Parce que quand t'as 30 ans, putain, que les mecs aillent se faire foutre, tu t'en fous, quoi, tu fais ce que tu veux. Mais je crois... Enfin, bon, oui et non.
Pas tous, hein.
Pas tous.
Pas pour tous les mecs.
Mais bon, en tout cas, voilà, en tout cas, c'est plus ou moins facile en fonction du milieu social, en fonction de... Et puis, je parlais tout à l'heure des jeunes gays. Ça aussi, c'est une expérience à laquelle je suis vachement sensible parce que, tu vois, par exemple, il y a un livre de Didier Héribon qui s'appelle « Retour à Reims », qui est un livre bouleversant. Voilà, être un jeune gay dans les années 80 dans une petite ville de province, c'est un truc, c'est super dur. Enfin, c'est super dur parce que tu en payes le prix là aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des expériences de masculinité qui révèlent des formes d'aliénation, des formes de fragilité. Et puis, oui, des formes de souffrance, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est des pauvres victimes, mais je crois qu'on a quand même le droit de parler en ces termes.
Bah écoute, je crois qu'on va se quitter là-dessus.
Ah bah oui, mais c'est un peu triste, faut qu'on dise un truc un peu rigolo quand même.
Faut qu'on dise un truc plus drôle.
Raconte-toi une histoire d'enfance, qu'on sache quelque chose sur toi.
Oh là là, moi une histoire d'enfance, alors par exemple, tu vois, il y a un truc qui m'a défini toute ma jeunesse et qui continue à me suivre encore. Tu sais, c'est les fameux trucs que tes parents te disent quand t'es gamin et qui continuent à te balancer encore quand t'as 40 balais et t'as envie de leur mettre une tarte en leur disant « Arrêtez maintenant, ça ne me définit plus ». Mais par exemple, on jouait au foot avec mon frère, donc j'ai un plus petit frère qui a un an et demi de moins que moi. Et en fait, moi, je détestais aller au fond du jardin parce qu'en fait, on avait mis les buts au fond du jardin et il y avait le chien qui chiait là-bas. Donc, je détestais aller faire le goal parce qu'en fait, ça voulait dire à un moment donné, peut-être éventuellement, se retrouver à plonger dans une merde de chien, quoi. Et donc, j'étais tout gamin, je sais pas, j'avais peut-être 5-6 ans, quoi. Et je disais, ah non, moi, j'y vais pas. Donc, je préférais mon frangin, lui, y aller de ce fait-là. Lui, ça lui dérangeait pas d'aller dans les merdes de chiens, quoi. Et de cette là, je tirais. Ma mère m'a toujours dit, ça m'a suivi, quoi, tu vois, ce truc de mais toi, t'osais pas parce que t'étais pas très sportif et t'osais pas trop aller au fond du jardin, quoi. Alors que, bah, après, j'ai fait du basket pendant 10 piges, enfin 15 piges, 20 piges. Donc, mais si, j'étais sportif, en fait. Mais ça a des trucs qui restent, quoi. C'est dramatique, ça. Et puis, ça reste toute la vie, quoi. Tu vois, ma mère me le ressort encore aujourd'hui. C'est ouf, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Voilà, ça, c'est une bonne manière de se quitter. Merci, en tout cas.
Merci Yvan. Je mettrai tous les liens pour te suivre sur Insta et puis également pour commander, se procurer tes bouquins. Un grand merci à toi.
Ça me fait plaisir. C'était un honneur d'être là.
À plus.
Au revoir.